Alors, salut tout le monde. C'est ma dernière journée. J'en profite pour vous remercier pour m'avoir déconfiné pendant tout ce temps-là. Ça a été le fun de jaser tous et puis ça a été le fun avec tous les experts qu'on a eus. Vos appels sont toujours très importants pour moi. J'ai besoin d'échanger avec vous autres. Ça me fait du bien. Ça aide à préciser notre pensée. Puis c'est ça, il y a une espèce de petit soulagement moral aussi, émotionnel à tous se parler là-dedans. On va évidemment, en deuxième heure, on va diffuser la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce que ça fait longtemps qu'on se pose des questions. Mais là, on suppose qu'il va y répondre. Et puis après ça, on va analyser un petit peu ses réponses et tout ça. Et on va parler aussi avec Raphaël Jacob à un moment donné, parce que ça m'a impressionné, cette espèce de la dernière déclaration de Trump qui lui dit, OK, il va y avoir une transition pacifique. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il a chaud aux fesses. Je l'ai jamais vu reculer. Il a reculé d'un quart de pouce, on s'entend, là. Il n'a pas changé d'idée sur rien, mais il a reculé. Je pense qu'il a eu chaud aux fesses. Et puis, je veux voir les conséquences de ça. Et puis, mais la première question que je vous pose aujourd'hui, c'est avez-vous peur de mettre vous ou vos proches dans l'embarras en révélant des infos à la santé publique? Je vous pose la question. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a le tiers des Québécois qui ne disent pas tout à fait la vérité aux autorités à ce moment-là. Fait que c'est quelque chose qu'on va vouloir savoir et je vais en parler tout de suite avec Christian Jacob, qui est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, M. Jacob.
Bonjour.
Avant d'essayer de comprendre les causes, pourquoi on ne parle pas, il y a des groupes qui sont faciles à attaquer, les complotistes, ceux qui refusent de faire attention, qui débarquent à Rawdon à 700-800 pour aller se baigner dans la même rivière. Tout ça, on a vu ça, c'est correct, on n'y reviendra pas. Ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est les erreurs que nous, on fait. Les erreurs de tous ceux de bonne foi qui veulent faire le maximum. Moi, j'ai entendu un grand-père qui dit « Mais voyons, je suis confiné depuis le début, je fais attention, j'ai juste pris mon petit-fils dans les bras. » Ce qui est un geste, on ne peut plus naturel. C'est le geste le plus naturel pour un grand-père que de prendre son petit-fils dans ses bras, mais c'est comme ça qu'il l'a attrapé. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de petits gestes qu'on ne dit pas aux autorités quand ils nous posent la question, qu'on estime petits. Mais là, je voudrais comprendre, ces gestes-là qu'on croit petits, on semble avoir des grosses conséquences, là.
Ben oui, absolument. Tout contact peut avoir une conséquence. Puis je comprends que c'est difficile de retourner en arrière, de se rappeler de tous les petits gestes qui peuvent avoir était la source d'une transmission, mais c'est comme vous le dites, c'est là que ça peut se passer, c'est là que ça peut être important. Et ces données-là sont extrêmement importantes. C'est là qu'on a un grand rayon d'action. Puis il y a une étude particulière là, de bioinformatique qui a été faite là-dessus, puis qui démontre que si on a une efficacité de moins de 50% pour déclarer et retracer les cas, ben cette mesure-là est inefficace. Donc, c'est vraiment important de maintenir, de permettre à la santé publique de maintenir une efficacité de ce côté-là, parce que sinon, on se retrouve à ramer dans le vide, dans le fond.
Jusqu'où on cache ces gestes quand ça nous est demandé, par exemple, à un moment donné, mon erreur à moi. Souvent, j'arrive ici, là, chez Cogeco, pour animer, puis il y a un stationnement à étage. J'arrive, je sors de mon auto, puis je m'aperçois une fois rendu à l'ascenseur que j'ai oublié mon masque. Je reviens, je vais chercher mon masque. J'ai été chanceux, j'ai croisé personne, c'est tranquille ces temps-ci, là. J'ai croisé personne. Mais théoriquement, ça aurait pu être une erreur qui aurait pu mettre moi ou d'autres à risque. On en fait tous des erreurs comme ça, on a tous des moments de distraction. Et ce qui semble là, c'est que il y aurait le tiers des Québécois qui disent pas la vérité. Donc, je pense que tout le monde a un petit quelque chose à se reprocher. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je cherche beaucoup, par exemple, du côté des aérosols. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Parce que je ne crois pas qu'on puisse mettre la faute sur un seul groupe. Quand on parle d'un virus. Un virus extrêmement insidieux, on ne le voit pas, on peut simplement marcher puis passer passer à un endroit où quelqu'un a passé la veille, puis, puis on l'attrape. Mais il faut quand même pouvoir, si la santé publique veut pouvoir fonctionner, il faut qu'elle ait des données. Et là, on leur cache, comme population, qu'est-ce qu'on a honte de dire d'habitude, une distraction comme la mienne?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit là. Les aérosols sont une portion en effet là, de la transmission, mais ça va pas jusqu'à la rougeole par exemple, où une personne effectivement peut avoir occupé une personne infectieuse peut avoir occupé un local puis le quitter et plusieurs heures après que quelqu'un vienne et attrape la maladie, c'est pas tout à fait ça. Mais de toute façon, à la santé publique, on est mieux d'en dire plus. Puis eux évalueront ce qui est pertinent ou qui ne l'est pas. Là, pourquoi qu'on ne veut pas donner de l'information? Ben, j'imagine qu'il y a d'un côté la peur de représailles. La santé publique a été très claire au fait que la santé publique n'est pas là pour donner des contraventions. Ils sont là pour améliorer et protéger la santé de la population, pour prévenir les cas. Puis d'un autre côté, ben si on a honte de donner l'information parce qu'on sait qu'on a commis une erreur, ben c'est une raison de plus de donner l'info parce que là on vient sciemment empirer le cas si vous voulez, puis mettre des conditions pour que le virus continue à se propager. Puis bon, ça vaut ce que ça vaut là, mais faute à vous est à moitié pardonné, comme on dit.
Il faudrait donc que ce soit considéré comme ça parce que on peut pas traiter ça comme je faisais un parallèle avec avant la COVID, mettons, quelqu'un fait une fête chez eux, puis un ami d'un ami qui repart sous volant de sa voiture, puis qui frappe quelqu'un, puis celui qui a organisé le party, il peut être tenu responsable de ça. Alors, mais ça, c'est parce que là, on est dans le domaine du criminel, mais pas ici. Ici, on est dans le domaine de la santé publique, puis d'essayer d'être le plus responsable possible. Donc, il n'y a personne qui va se faire mettre en prison s'il dit la vérité, s'il a commis un écart, s'il a été dans un endroit où il n'aurait pas dû aller, s'il a croisé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû croiser.
On est dans l'hypothétique, mais j'ai l'impression que des fois, on ment un peu parce qu'on se fait prendre par surprise. On le sait qu'on va se faire poser la question inconsciemment, mais quand la question vient... si on n'a pas pris le temps de bien réfléchir à la portée de ce qu'on va dire, c'est quoi les conséquences potentielles, j'imagine que des fois on ment juste parce que on est pris court, puis pour se protéger, ben on dit pas toute la vérité. Puis je trouve que c'est important que vous en parliez aujourd'hui, que les médias en parlent, puis mettent de façon claire de l'avant le message de la santé publique comme qu'ils sont pas là pour eux jouer à la police. J'ai l'impression que ça va peut-être aider à diminuer cette...
Oui, et se rappeler qu'on n'a pas nécessairement commis de crime, puis on n'aura pas nécessairement une amende de 1 500 $ à chaque fois qu'on a fait un perte de travers. Je veux souligner des petits détails comme ça. Des fois, il y a eu d'autres mondes dans une salle. On rentre, on a peur de toucher n'importe quoi, comme moi ici, la table, l'ordinateur, je sais pas, tout. On a peur d'y toucher, de peur que l'autre avant y ait touché. Mais je veux juste signaler à tout le monde la contamination, là, quand on touche à quelque chose. D'y toucher, ça transmet pas le virus. C'est ça, après ça, on se met les doigts dans les yeux, dans le nez ou n'importe où il y a des vaisseaux sanguins, c'est là que ça se transmet. Mais d'avoir touché, c'est pas si grave que ça. On va prendre des appels, si vous voulez, M. Jacob, puis gênez-vous pas pour répondre à ma place, ça va me faire plaisir. On a Michel. Salut, Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Moi, en fait, j'appelle. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'appel de la santé publique actuellement. Par contre, j'ai ma voisine qui est une amie à moi. Son conjoint, en fait, à la COVID. Il y a eu l'appel, en fait, quelques jours plus tard qu'il ait passé le test. Là. Mais avant, il avait visité sa famille en cachette à Noël, le 24. Il y a eu un party de famille le 26 et tout ça. Et sa conjointe habite avec lui dans la maison. Et ils ont menti. Ils n'ont pas donné toutes les informations. Et sa conjointe, en fait, c'est sa blonde. Elle habite pas à la même adresse, mais là, ils sont ensemble. Elle a décidé de faire, entre parenthèses, sa quarantaine avec lui à la maison. Par contre, comme ils n'ont pas donné l'information à la santé publique, ben elle et les enfants se promènent partout. Ils allent à l'épicerie, ils allent un peu partout. Donc, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens disent pas la vérité parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir poursuivre leur activité. Non pas nécessairement par peur d'avoir des amendes ou choses comme ça. Là.
Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Jacob? Je trouve ça intéressant, ça.
Ben c'est un fait. C'est
faire couper ses activités.
Oui, c'est important d'y réfléchir à ça aussi. J'y avais pas nécessairement pensé d'emblée, mais j'imagine quand on n'a pas nécessairement un réseau familiale proche qui peut nous aider facilement ou des choses comme ça. Quoique maintenant, c'est tellement bien organisé, les services de livraison et tout ça, que je vois quand même pas comment qu'on pourrait justifier de cacher cette information-là pour cette raison-là, mais je comprends que ça peut arriver. Puis la santé publique a aussi souvent répété la même chose, là, que ce qui est difficile à gérer des fois, c'est les nouvelles éclosions. À l'intérieur d'un cluster, d'une éclosion, on est capable souvent de finir par gérer la dispersion, mais s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clusters, d'éclosions, bien là, ça devient problématique. Puis justement, de cacher ces infections-là peut causer des clusters, comme on en parle là, dans une famille qui est une nouvelle éclosion indépendante. Puis c'est ça qui est lourd à gérer. Donc, je répète le même message, là, mais c'est vraiment important de donner cette information-là à la santé publique.
Oui, parce que si j'écoute l'exemple que Michel vient de nous donner, il y a ce qu'on a compris là, à être la cellule familiale. Alors, c'est-à-dire, si vous êtes seulement un couple, parfait. Vous êtes un couple, vous avez une adresse, puis c'est tout, puis ça s'arrête là, puis après, le couvre-feu, ça va être là. Vous n'avez pas le droit d'être ailleurs. Mais il y a des couples qui se laissent, il y a des couples qui se font. Pendant la pandémie, il y a des choses qui changent, puis je crois que, même pas juste les couples, mais nos enfants, on a peur de peut-être plus les voir et d'être privés d'eux pendant très longtemps. Ça peut peut-être être un argument aussi, ça, qui fait peur au monde.
Oui, mais il faut avoir conscience qu'on est dans une situation exceptionnelle aussi. Il va avoir des impacts de cette situation exceptionnelle-là sur nos vies. Faut apprendre à vivre avec, faut apprendre à faire avec, mais il faut les accepter aussi. On peut pas juste se dire qu'on se cache les yeux puis qu'on continue comme d'habitude. On n'est pas dans une situation normale.
On est en train d'essayer de contrôler une pandémie, il faut pas oublier, c'est vrai.
Oui.
Je vais vous garder avec moi pour le prochain bloc, si vous avez le temps. On va prendre d'autres questions du public. Je vous demande au public, est-ce que vous avez peur de mettre vous ou vos proches dans l'embarras en révélant des infos à la santé publique? Vous, vos proches, vos voisins, je sais pas quoi, mais je voudrais avoir des exemples de gestes que vous posez, justement, ou que d'autres ont posé pour cacher des choses aux autorités publiques. Je ne fais pas une chasse aux sorcières, j'essaie de comprendre quels sont les gestes qu'on fait, quels mécanismes qu'on adopte à ce moment-là. Et puis évidemment, les conséquences sont assez grandes, mais en ce moment, l'éclosion qu'il y a en ce moment ne sera pas définitive. Donc si on a peur de, par exemple, pas revoir des gens très, très, très proches, ça ne devra pas durer 50 ans, cette affaire-là. C'est le temps d'aplanir la courbe, comme disait notre bon docteur Arruda. Aplatir la courbe. Il est très physique, notre docteur Arruda. Alors, je vous repose la question et je vous donne le numéro de téléphone 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Je suis avec Christian Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec et on revient tout de suite après la pause. Je vous repose la question. Avez-vous peur de mettre vous ou vos proches dans l'embarras en révélant des infos à la santé publique? Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. Vous me semblez un peu gêné d'appeler. Ceci dit, il y a quand même le tiers des Québécois qui n'ont pas communiqué toutes les informations. Il devrait en avoir 3-4 qui sont prêts à nous parler, c'est certain, John. Éric, salut Éric.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, très bien. Je suis un ancien élu. Et depuis, j'ai quitté...
Un ancien quoi, excuse-moi?
Je suis un ancien élu municipal.
Oui, OK.
Et la problématique qui arrive aussi, c'est que beaucoup de gens, au début, ont dénoncé. Et surtout dans les régions un peu plus rurales, ça n'a rien donné. Et les rassemblements ont continué. Donc, les gens ont comme un laxisme maintenant de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer parce qu'il n'y a rien qui se passe, surtout dans les régions. Parce que pour moi-même l'avoir fait, souvent, il y a des réunions qui ont eu lieu dans des cabanes à sucre, dans le bois, des choses comme ça. Les gens sont au fait, mais même en tant qu'élu, même en tant qu'ancien maire, j'ai dénoncé, on a dénoncé pour la santé, parce que souvent, c'est un groupuscule de gens, mais il n'y a rien qui se fait. Fait que les gens, aujourd'hui, sont comme, ça ne sert plus à rien de dénoncer. Il y a comme un laxisme.
C'est certain que si on dénonce un gros party, puis il n'y a aucune police qui vient, on se dit, je sers à quoi, là? C'est la première chose. D'autant plus que plus on s'éloigne de la ville, par exemple, moi, dans mon coin, dans la Naudière, tout le monde se connaît, là. C'est que s'il y en a un qui parle, à un moment donné, il peut peut-être avoir des chicanes dans le voisin. Il y a peut-être des gens qui vont se brouiller, qui ne se parleront plus après. C'est pas évident. Plus on essaye de prendre les bonnes mesures, plus il y a de complications avec ça, parce que il y a des lois qu'on a fait il y a très longtemps puis qui s'appliquent très bien à la situation de tous les jours. Là, on est obligé de pédaler à mesure et de se réadapter. Donc, vous croyez principalement que c'est parce que les gens sont pas écoutés quand ils portent plainte qu'ils ne portent plus plainte maintenant?
Oui, je suis en accord avec ça. D'autant plus, un exemple dans ma MRC, nous, on a seulement que 2 patrouilleurs dans une MRC qui est très grande. Donc, je comprends qu'ils sont débordés. Fait que donc, il y a comme un certain écoutez, c'est pas grave, on va se réunir dans le bois, dans la cabane à sucre, personne ne le savoir. Mais comme vous dites, tout le monde se connaît. Moi, j'en ai eu des menaces parce que j'avais fait mon travail d'élu. Et à un moment, tu dis, écoute, je vais m'occuper de moi-même, puis on laisse faire les autres.
Ah, oui, je comprends. Il y a un ton qui a monté avec une pandémie, c'est extrêmement angoissant. Et dans l'angoisse, on a tous des réactions différentes. Il y en a qui font beaucoup du déni, j'ai remarqué. Et il y en a d'autres qui, beaucoup qui tombent dans l'agressivité. On le voit sur les médias sociaux. Il y a des menaces. Il y a des menaces de mort envoyées à nos élus. Il y a des. Et à tout le monde qui ose mettre une opinion puis ose dire oui, il faut vous mettre votre maudit masque, gardez 2 mètres, c'est pas sorcier, là. On n'est pas dans une dictature, puis il n'y a personne qui est en prison. C'est juste ça qu'on demande. Et puis là, le ton monte de plus en plus, ce qui est le signal d'une société très angoissée. Mais je comprends que pour vous, à un moment donné, c'est devenu ingérable.
Bien, c'est ça. C'est une des raisons. Je suis un des élus qui a eu des menaces suite à mes interventions. Et à un moment, tu dis, écoutez, c'est plate, mais regarde, on laisse le milieu politique. Mais justement, la COVID a fait en sorte.
C'est triste que vous ayez abandonné le milieu politique à cause de ça. On a besoin de nos politiciens.
Mais c'est un ensemble de facteurs. Parce qu'actuellement, il y a certains. Envers nos élus, un exemple, on va prendre ne serait-ce que M. Legault. Il n'y a personne qui a un livre d'instruction comment gérer une COVID, autant au milieu municipal que provincial ou fédéral.
Non, on apprend à mesure.
C'est ça, exactement. Et les citoyens sont conscients. Je vous dirais 90 % des gens vont appliquer. Mais c'est toujours le 10 % qui fait en sorte que les gens se sentent menacés puis ils n'osent pas dénoncer, comme je viens de vous dire, parce que il n'y a pas d'effet. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai dénoncé, il y avait un rassemblement autour d'un feu, 20 personnes au mois de novembre. Les policiers sont arrivés, se sont tous sauvés, puis la police n'a pas émis aucun ticket.
Étiez-vous maire à ce moment-là?
Oui, exactement. J'étais maire. Et à un moment donné, en tant que leader ou en tant que leader au niveau politique aussi, et j'avais une population de 2000, j'étais rendu à 40 cas sur 2000 de population. Ben là, il faut faire un geste. Mais quand tu fais un geste puis qu'il n'y a pas de conséquences, ben le message tombe à l'eau. Donc, c'est un peu ça aussi qui se passe.
Là, surtout si ça vient du maire, il me semble. D'habitude, les policiers prennent leur maire au sérieux. Je ne sais pas.
Ben ils l'ont pris, mais comme je vous dis, vous avez 2 patrouilles pour une MRC de 22 000 de population.
Ah, manque de moyens.
Exactement. Donc, puis les citoyens, se sont sauvés par les champs, puis le propriétaire qui avait 22 chaises autour de son feu n'a même pas eu un ticket. Fait que tu parles un peu dans le bar. Fait que ça fait qu'aujourd'hui, les gens disent, bon, c'est pas grave, on se fera pas pogné. C'est ça le problème.
OK, je comprends. Merci beaucoup.
Merci,
on a Patrick au bout du fil. Salut Patrick.
Bonjour. Salut. Moi, je voulais savoir si ça va être comme une maladie à déclaration officielle.
Déclaration obligatoire, vous voulez dire?
Oui, déclaration obligatoire. Parce que tu sais, si tu sais que tu l'as, puis après ça, tu respectes rien, puis tu t'en vas, puis tu commences à semer la mort alentour de toi, là, à un moment donné, il faudrait que tu sois responsable.
Je sais pas, parce que, évidemment, c'est nouveau, cette pandémie, mais je sais que, par exemple, quelqu'un qui a une maladie grave, comme, je sais pas, le VIH-SIDA, et qui fait l'amour avec d'autres personnes, et il ne se protège pas, et il ne le dit pas, peut être accusé au criminel d'avoir propagé sa maladie comme ça. Là. Mais là, on est en temps de COVID, puis propager, des fois, c'est juste respirer. Je suis tenté de demander à notre expert ici, Christian Jacob.
Une fois que tu sais que tu l'as, Daniel, en fait, c'est ça?
Oui.
C'est quand... Si tu ne sais pas que tu l'as, puis que tu n'as pas de test, je comprends, mais une fois que tu sais que tu l'as, tu dois respecter la quarantaine, et justement, il n'y a peut-être pas assez de personnel pour faire appliquer ça.
Oui, mais moi, j'ai quand même downloadé l'application COVID. À date, j'ai croisé personne pour l'instant. Mais effectivement, est-ce qu'on peut demander à M. Jacob?
Oui. Dans le fond, c'est pertinent avec la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est un couteau à deux tranchants. S'il y a des conséquences
extrême à légales, là, criminelles, qui sont la conséquence d'avoir ou non la maladie et de comment on la gère. Ça se peut qu'il y ait des problèmes au niveau justement de donner l'information et de déclarer qu'est-ce qu'on a fait quand on a commis une faute. Fait que je trouve ça intéressant comme question. Je pense pas que ça va l'être, cela dit, là, la déclaration obligatoire, là, c'est des cas d'exception quand ça arrive. Puis plus que la pandémie va avancer, moins que avec le vaccin et tout ça, là, moins que les conséquences vont être importantes de cette pandémie-là. Donc, je pense pas que plus que la pandémie avance, moins que c'est pertinent là, de penser à ce genre d'outils-là pour réussir à diminuer
le pic va redescendre. On va peut-être justement porter à être un peu plus négligent en disant ouf, c'est fini, ça fait du bien. Mais c'est juste un pic, ça continue, le virus est encore là, tant qu'on n'en sera pas venu à bout, ça va être là.
Ceci mais plus qu'il va avoir une immunité dans la population, plus que le virus va s'adapter à son hôte, plus que les gens vont être vaccinés, il va quand même avoir des risques moindres là, pour la population en général.
Oui, d'autant plus que j'essaie de trouver un exemple facile, mais admettons qu'on est 5 personnes alentour de vous, M. Jacob, que vous avez le virus, que vous vous avez pas, mais que nous autres, on est 5 qui ont été soit vaccinés, soit qui l'ont déjà eu. Bref, on est tous immunisés. Le virus, lui, doit se reproduire pour survivre. Sans ça, il meurt. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le fait qu'il ne puisse pas se transmettre parce qu'alentour de vous, on forme une barrière de gens qui ne peuvent pas l'attraper, est-ce que le virus meurt à ce moment-là? Est-ce qu'on s'en débarrasse?
Oui, ça serait surprenant qu'on arrive à une éradication complète rendue où on est, là, étant donné que la transmission est planétaire, tous les pays n'ont pas la même capacité de rejoindre leur population, de les vacciner.
D'avoir de vaccins. Ouais.
Donc, ça serait surprenant d'éradiquer tout ça, mais ça s'est déjà vu pour certaines maladies, dont la variole. C'est le principe de la vaccination, dans le fond, puis le but ultime auquel on tente d'arriver avec ça, dans certains cas, c'est ça, c'est l'éradication complète de vacciner assez de gens, de rendre assez de gens protégés dans la population pour que le virus se bute à un mur partout où il s'en va, puis qu'il soit plus capable de se transmettre.
Et je veux juste spécifier une question de Patrick ici, puis là j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui criminellement transmet le VIH SIDA en le sachant. On n'est pas dans le même cas de figure du tout. Ce que je parlais dans le cas du VIH SIDA, ça a rapport au code pénal. C'est jugé de façon pénale. Ça ne l'est pas avec la COVID. On n'est pas là-dedans. On est dans la sécurité publique. Donc ce qu'on a plus peur, je crois, c'est de plus pouvoir voir ce qu'on aime, c'est de plus pouvoir faire certaines activités. Mais je le rappelle, ça va durer un certain temps. Puis après ça, si on fait nos choses comme il faut, ça va revenir. Et justement, plus on signale à la santé publique et plus moins on a peur de dénoncer, plus on a de chances que ça se termine plus vite, ou en tout cas qu'on soit en contrôle plus vite, puis qu'on puisse reprendre nos activités.
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui parlent de liberté individuelle pour justifier que leurs actions, là, qu'ils veulent pas que le gouvernement entrave leur liberté individuelle, mais en faisant des gestes qui permettent au virus de continuer à se propager de façon importante, ben ça oblige le gouvernement à mettre en place des mesures qui sont de plus en plus contraignantes. Plus que de propagation, plus que le système de santé est occupé et surchargé par les cas, plus qu'on ne donne pas le choix au gouvernement d'agir. Donc, si on veut regagner nos libertés individuelles, si on veut les conserver, ben il faut, pendant un certain temps, agir de façon à contenir le plus possible cette propagation-là.
Oui, puis liberté individuelle, on a beaucoup de liberté individuelle, mais c'est pas complet. Notre liberté individuelle s'arrête quand on menace la liberté collective. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Je ne crois pas. Écoutez, si on nous demandait de nous couper un membre ou d'être en prison pendant 15 ans, je comprends, là. Mais un petit masque, faire attention, garder 2 mètres. Puis là, on va garder un couvre-feu. Le temps de redescendre le pic, ça sera pas indéfini, cette affaire-là. Alors, merci beaucoup, M. Jacob, d'avoir éclairé nos lanternes. Et puis, ben, je vous souhaite un bon couvre-feu. Ça commence samedi.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir, M. Jacob. Merci beaucoup. C'est Christian Jacob qui est président de l'Association des microbiologistes du Québec. J'ai vu, je crois, pour la première fois, Trump avoir peur un peu et reculer d'un quart de pouce. C'est un événement. Nous devons de le fêter mais, adéquatement. Mais au retour, on va parler avec Raphaël Jacob, qui est notre chercheur associé à la chaire Raoul Landurant pour les questions des États-Unis. Après la pause.